Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Première audience générale du pape Léon XIV, c'était devant une foule de 40 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre que le nouvel évêque de Rome a tenu sa toute première catéchèse centrée sur l'année jubilaire en cours. Et à l'issue de l'audience générale, le pape Léon XIV a évoqué la mémoire du pape François qui totalisait un mois depuis son retour à la maison du Père. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi en Côte d'Ivoire où l'épiscopat du pays est réuni à Bonoua au sud-est du pays pour sa 127e assemblée plénière. Et pour honorer la mémoire du pape François, nous vous proposons un retour sur deux de ses voyages accomplis en Afrique, à Madagascar et au Soudan du Sud, deux voyages qui représentent aussi deux thématiques qui ont été au cœur du pontificat de François, la paix et la pauvreté. Ce sera tout pour les titres, les détails dans quelques instants.
Radio Vatican, France et Afrique, Fabrice Baguendéquéré.
C'est devant une audience générale de 40 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre que le nouvel évêque de Rome a tenu sa première audience générale. Poursuivant le cycle des catéchèses jubilaires entamées par son prédécesseur, Jésus-Christ notre espérance, Léon XIV a offert une réflexion sur la parabole du semeur. Le compte-rendu de Marine.
Cette parabole dans laquelle un semeur, plutôt original selon le pape, jette des graines sans calcul. Certaines sont mangées par les oiseaux, dont trop séchées, et d'autres ont donné du fruit. Cette parabole est précisément une illustration de la manière de communiquer de Jésus, explique Léon XIV.
Cos'è dunque questo terreno? È il nostro cuore.
Quelle est donc cette terre sur laquelle sont jetées les graines, interroge le pape à la foule, avant de répondre « Cette terre, c'est notre cœur, les graines sont la parole de Dieu ». Et si l'attitude du semeur peut surprendre de jeter les graines au hasard, c'est peut-être que nous avons oublié que l'amour ne peut pas être un geste calculé. Alors ces graines, telles des paroles, peuvent arriver à tout un chacun alors qu'il est distrait ou submergé par son quotidien, mais aussi quand il est accueillant et disponible, qu'importe, ces semences sont adressées à tous, partout, et un jour la graine fleurira, car Dieu est minci, estime le pape. Il n'attend pas que nous soyons la meilleure terre, il donne généreusement.
Et à l'issue de l'audience générale, le pape Léon XIV a évoqué la mémoire du pape François, qui totalisait un mois depuis son retour à la maison du Père. Je vous propose de suivre les paroles du Saint-Père.
Possiamo concludere questo nostro incontro.
Nous ne pouvons pas conclure cette rencontre sans faire mémoire avec grande gratitude du bien-aimé pape François qui, exactement un mois passé, est retourné vers la maison du Père, a dit le pape.
Le Saint-Père a aussi réalisé son premier message vidéo mardi en fin d'après-midi. C'est à l'occasion d'une rencontre à Rio de Janeiro, au Brésil, de 200 présidents d'universités venant d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et de la péninsule ibérique. Le Saint-Père les encourage à être des bâtisseurs de ponts d'intégration entre les Amériques et la péninsule ibérique en travaillant pour la justice écologique, sociale et environnementale. Autre actualité concernant le pape, mercredi, le bureau des célébrations liturgiques du Saint-Père a rendu public le calendrier de ses célébrations. Son calendrier liturgique pour le mois de juin sera riche et bien chargé en célébrations, la plupart d'entre elles liées au jubilé. Les détails avec Stanislas Kamashi.
Oui, Fabrice, un calendrier bien chargé avec des événements chaque dimanche en plus des solennités. Notons que le mois de juin aura 5 dimanches. Le 1er juin, 7e dimanche des Pâques, le pape présidera place Saint-Pierre, la messe pour la clôture du jubilé des familles, des enfants, des grands-parents et des personnes âgées. Les dimanches suivants, 8 juin, en la solennité de la Pentecôte, sera célébrée la messe de clôture du jubilé des mouvements, associations et des communautés nouvelles. Les jours suivants, 9 juin, en la mémoire de la Vierge Marie, mère de l'Église, aura lieu le jubilé du Saint-Siège. Le 13 juin, se tiendra le consistoire ordinaire public pour certaines causes de canonisation. Le 15 juin, à la solennité de la Sainte Trinité, Léon XIV présidera la messe de clôture du jubilé du monde du sport. Après la messe de la solennité du Corpus Domini à la basilique Saint-Jean de Latran le dimanche 22 juin, aura lieu la traditionnelle procession avec les Saints Sacrements jusqu'à Sainte Marie Majeure ainsi que la bénédiction eucharistique. Vendredi 27 juin, à la solennité du Sacré-Cœur de Jésus au Vatican, le Saint-Père présidera la messe de clôture du jubilé des prêtres. Et enfin, le dimanche 29 juin, à la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, les saints patrons de la ville de Rome, Léon XIV célébrera dans la basilique Saint-Pierre la messe au cours de laquelle il bénira les palliums pour les nouveaux archevêques.
Ouverture de la 127e assemblée plénière de l'épiscopat ivoirien mardi 20 mai. C'est à Beaunois, au sud-est du pays. Cette rencontre qui se déroule au centre Jean-Paul Ier de Kodjoboué constitue une étape majeure dans le discernement pastoral des évêques, appelés à scruter avec lucidité la marche de l'Église ainsi que les réalités nationales à la lumière de l'Esprit-Saint. La correspondance de Marcel Ariston Blais.
L'ouverture de cette session a été marquée par une messe solennelle célébrée en l'église des Toussaints de Beaunois, présidée par Mgr Marcelin Yaokwadio, évêque de Daloa et président de la conférence épiscopale ivoirienne. Dans son homélie, Mgr Kwadio a vivement exhorté les fidèles à cultiver la responsabilité de rendre compte qu'ils considèrent comme une exigence incontournable pour tous, quel que soit leur état de vie, clerc, diacre, prêtre, évêque ou laïc.
Celui-ci, dans un esprit de transparence inspiré par des critères évangéliques.
S'inscrivant dans le contexte électoral actuel, Mgr Kwadio a lancé un appel pressant à l'ensemble des citoyens ivoiriens afin qu'ils se fassent artisans de paix, rappelant avec force que la vie humaine est sacrée.
Les gouvernants ont donc le devoir de garantir à leur peuple la paix, la justice, la sécurité et le bonheur à visage humain. Nous prions tous pour une élection présidentielle apaisée dans notre pays.
La cérémonie d'ouverture officielle est tenue dans la matinée a rassemblé de nombreuses autorités administratives et civiles, militaires et coutumières. Plusieurs interventions ont marqué l'événement, notamment le message du pape Léon XIV adressé aux évêques ivoiriens par l'entremise de Mgr Mauricio Redabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire.
Il vous invite à cultiver entre vous une unité toujours plus grande, indispensable pour annoncer prophétiquement l'Évangile, sans compromission, avec un total désintéressement.
Marcel Ariston Blais, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Place à présent à l'actualité sociopolitique sur le continent. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est depuis lundi à Washington DC pour une visite de travail destinée à réinitialiser et raviver les relations bilatérales entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, a indiqué un communiqué de la présidence sud-africaine. Une rencontre donc stratégique pour la nation arc-en-ciel qui espère trouver une désescalade et obtenir des accords commerciaux avec les États-Unis. Notre correspondant au Cap, Gabriel Porometo.
Après l'arrivée de 49 réfugiés blancs sud-africains aux États-Unis, Pretoria tente de calmer les tensions avec Washington. Cyril Ramaphosa rencontre Donald Trump et Elon Musk qui accusent l'Afrique du Sud d'orchestrer un génocide blanc. À l'origine de ces tensions, une loi sud-africaine adoptée en janvier autorisant dans certains cas l'expropriation des terres. Une mesure qui a provoqué l'ire de Trump, lequel a signé un décret facilitant l'accueil des Sud-Africains blancs sous le statut de réfugiés le 7 février dernier. Mais ce récit d'un génocide blanc existe depuis la fin de l'apartheid et il est contredit par les faits. Les blancs ne sont que rarement victimes de meurtres, tout en conservant 72% des terres agricoles et occupant 62% des postes de direction. La visite de Ramaphosa vise pourtant à éviter une escalade dangereuse pour la nation arc-en-ciel. En ligne de mire, conclure un accord commercial pour protéger l'économie sud-africaine alors que les États-Unis envisagent de rétablir une hausse des droits de douane en juillet. Un pragmatisme assumé, loin de la polémique autour des réfugiés blancs. Le Cap Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
L'armée soudanaise a annoncé mardi avoir délogé les paramilitaires de leur dernière position à Omdurman, dans l'agglomération de la capitale, achevant ainsi sa prise de contrôle de l'ensemble de l'état de Khartoum après une opération de grande envergure. Omdurman avait été le lieu où s'était repliée une partie des paramilitaires des forces de soutien rapide après la reprise en mars du centre de la capitale. Les troupes du général Abdel Fattah al-Bourane ont lancé cette offensive lundi. L'état de Khartoum, qui englobe la capitale Khartoum et plusieurs régions environnantes, est complètement libéré des rebelles, a indiqué le porte-parole de l'armée, Nabil Abdallah, dans un communiqué.
L'ancien premier ministre congolais Augustin Matata Mponyo a été condamné mardi par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics dans le cadre d'un projet de parc agro-industriel. Après une bataille juridique de près de 4 ans, la Cour constitutionnelle l'a reconnu coupable de détournement de fonds d'un montant de 247 millions de dollars, a déclaré son président Dieudonné Kamuleta lors d'une audience publique. Pour ce procès ouvert en 2023, l'ex-chef de gouvernement était poursuivi aux côtés de Deogratias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, et d'un ressortissant sud-africain, Grobler Christo, gérant d'une société sud-africaine. Au Tchad aussi, l'ancien premier ministre et opposant Succès Masra a été auditionné mardi toute la journée par la police judiciaire pour des soupçons d'incitation à la haine, a-t-on appris auprès de ses avocats. Arrêté le 16 mai, l'ex-premier ministre et chef du parti d'opposition Les Transformateurs est soupçonné par la justice d'incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité des bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire, profanation de sépulture. Mercredi, 42 personnes ont été tuées à Mandakao, dans la région du Logoné occidental, selon la justice tchadienne qui soupçonne Masra d'avoir provoqué ce massacre. Un mois après la disparition de François, sa présence reste vivante parmi les fidèles. Nous vous proposons donc un retour sur sa mémoire, ce pape qui avait toujours voulu rejoindre les églises les plus lointaines, les églises de la périphérie. Et c'est d'abord au Madagascar où nous nous dirigeons. On se rappelle son voyage apostolique effectué le 8 septembre 2019 dans cette grande île de l'océan Indien. Lors de ce voyage, le pape François avait visité l'association Akamasoa, le village d'amitié fondé en 1989 par le père Pedro Opeka. Le prêtre argentin, ancien élève de York, Mario Bergoglio, recueille dans son association les familles les plus pauvres de la capitale Antananarivo, leur offrant un toit et aux enfants un avenir. Le père Pedro Opeka revient sur cette attention particulière de François pour les plus démunis.
Tout de suite, le fait d'avoir son premier voyage, c'était aller à Lampedusa pour avertir l'opinion publique et tous les États que c'est indécent et c'est une honte que nous laissons mourir nos frères et sœurs dans la mer Méditerranée. Alors là, c'est déjà une sensibilité très forte. Et ensuite, ces gestes d'arrêter la papa mobile et descendre pour embrasser un homme, je me souviens, un homme tellement difficile à embrasser, lui, il est allé l'embrasser comme son frère.
Est-ce que François a changé notre regard sur la pauvreté?
Bien sûr, plus le temps va passer, plus on va se rendre compte comment ce pape était près des gens et il aimait les gens, il aimait le peuple. Et quand il était à Kamasou, les protocoles voulaient mettre des barrières à l'intérieur de notre salle, grande salle où il y avait 8000 enfants qui l'ont reçu. Ils voulaient mettre des barrières. Je dis non, pas de barrières ici. Ici, nous sommes à Madagascar. À Madagascar, les gens respectent le hôte. Alors, le commandant de la garde suisse m'a dit, mon père, je joue mon poste ici. J'ai dit, vous ne jouez rien du tout. Et quand le pape est venu, c'était tellement beau. Il était tellement près des gens. Il pouvait les embrasser, il pouvait les toucher. C'est lui qui touchait les gens, c'est lui qui saluait les gens. Et le commandant de la garde suisse, il a pleuré. Et il m'a dit, le pape, après qu'il m'a pris dans sa papa mobile, et il m'a dit, Pedro, regarde la joie de ses enfants, la joie de ce peuple.
Pour les personnes que vous aidez et qui proviennent de situations d'une extrême fragilité, je rappelle qu'au départ, vous accueilliez des personnes qui étaient sur les décharges de détritus d'Antananarive. Qui était le pape François pour ces personnes-là?
Pour ceux qui étaient chrétiens, bon, c'est le pape qui est le représentant des pierres sur terre. Mais les gens d'ici, les plus pauvres, ne le connaissaient pas. Mais c'est quand il est venu là, c'est là quand ils ont compris qui était cette personne-là et quelle était sa mission et comment il l'aimait. Comment il aimait les enfants, les jeunes, et les malades et les personnes âgées. Là, ils ont vu et sa joie qui manifestait là. Ça nous a touchés. Et le pape nous a dit là, quand il nous a parlé là, il a dit, j'ai découvert ici à Kamasou une lumière. Cette lumière-là, il a dit, je vous demande de la éparpiller dans tout Madagascar et au-delà de ses frontières.
Cette proximité du pape François avec les personnes devant lesquelles, généralement, la plupart du temps, notre société détourne le regard, cette proximité a-t-elle contaminé les membres de l'Église?
Bien sûr, il y a beaucoup, mais pas tous, pas tous. Il y a beaucoup encore des gens d'église qui préfèrent l'institution, qui préfèrent l'autorité, qui préfèrent la richesse. Mais Jésus n'a pas vécu ainsi. Et Jésus a vécu simplement et au milieu des pauvres. C'est que nous, les êtres humains, nous aimons aussi, nous aimons être respectés par la richesse extérieure. C'est mieux d'être respecté, mais par les richesses de l'esprit de l'Évangile.
Le père Pedro Opeka, fondateur du village de l'Amitié à Madagascar. Il était interrogé par Jean-Charles Poutsolou. Le pontificat de François a été aussi marqué par son engagement pour la paix. La paix, c'est un des messages qu'il portait dans ses voyages, notamment au Soudan du Sud, dernier pays qu'il a visité sur les continents africains. Le père combonien Janvier Kabeya, qui travaille dans l'accompagnement des réfugiés sud-soudanais présents en Ouganda, revient sur ce voyage qui avait suscité l'espoir de voir les parties en conflit entreprendre la voie du dialogue et de réconciliation.
Je suis ici en Ouganda, à Paloringa précisément, dans le district de Obongi, dans le West Nile, c'est donc la province du Nord qui a la frontière avec le Congo et le Sud-Soudan. La visite du pape François avait suscité beaucoup, beaucoup d'espoir pour nous, les réfugiés ici, ou pour les Sud-Soudanais, parce que nous sommes déjà identifiés, nous qui vivons ici en exil, qui vivons ici dans les camps de réfugiés. Pourquoi? Parce que cette visite, c'était vraiment une visite nourrie d'espoir, dans le sens que finalement, nos dirigeants vont écouter, ils vont écouter les grands chefs religieux qui sont venus. Le pape était accompagné avec ses deux confrères, des chefs religieux du monde, aussi bien pour les Anglicans, l'Église de Scotland, etc. Donc, ça avait suscité beaucoup d'espoir. Et nous, qui souffrons ici, dans les camps des réfugiés, on avait justement pensé, avec cette visite, finalement, nos dirigeants vont écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont été au Vatican, les papes ont baisé les pieds, et maintenant, arrivés sur le sol soudanais, ou sud-soudanais, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir en ce sens. Cette présence des chefs religieux au Sud-Soudan marquerait toujours les esprits, aussi bien des dirigeants que de peuple.
Et après la mort du pape François, quel tournant a pris ce processus de la recherche de la paix dans ce pays?
La vie du pape François gardait toujours en alerte les positions sud-soudanaises, même les positions en conflit. Et tout le monde avait du respect, parce que une visite pareille et le geste qu'avait posé pape François avait défié la culture sud-soudanaise, où les vieux, hein, l'ancien, ou les grands dirigeants comme celui-là, qui avaient touché le pied des servants. Donc cela était vraiment quelque chose de très fort. Cela avait soutenu non seulement l'espoir, mais aussi le respect que chacun devait garder ses positions de ne pas créer les conflits. Et donc c'était toujours un soutien spirituel, moral, politique et social. La population regardait, continuait à regarder. Il y avait toujours un peu d'escarmouche par-ci, par-là, mais en considérant ces faits-là, les choses ne se sont pas détériorées. Il y a eu comme une sorte d'accalmie. Il y a eu comme une sorte de transition. On travaillait encore dans les dialogues, les négociations, tout ça allait toujours avancer. Après une semaine de la mort du pape François, que moi je disais au confrère, avec la mort du pape François, ce qu'il avait fait devrait rester un testament. Mais malheureusement, pour les intérêts égoïstes, vous verrez que peut-être ça ne va pas tenir debout. Parce qu'on s'est dit parfois, bon, c'est lui qui soutenait notre espoir, c'est lui qui soutenait notre courage, c'est lui qui soutenait un peu notre morale est parti. Maintenant, on retourne aux intérêts égoïstes. C'est ça les dangers qu'on encourait. Et c'est ces dangers planent encore dans les horizons du Sud-Soudanais.
Le père Janvier Kabeya, prêtre combonien de nationalité congolaise, missionnaire en Ouganda.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.